Bien, merci. Alors donc, je ne me présente pas puisque c'est déjà fait. C'était important que l'Académie de Lyon soit présente puisque, même si en étant stéphanois, je suis un peu triste ce matin. j'arrête. Bien, alors, sur cette question des internats d'excellence, alors petit clin d'œil aussi à ma collègue Annie Derriaz, qui a ouvert le bal, on va dire, en janvier 2010, quelque chose comme ça, hein, et dont j'ai repris le dossier depuis quelques temps. Alors, je vais essayer de faire vite, parce que l'essentiel, il est à ma gauche, là, hein, et à votre droite. Alors... Retour sur un contexte territorial, puisque ce matin, il y a eu un certain nombre de questions qui émanaient d'acteurs de l'Académie de Lyon. Alors, je crois que ça a été dit, excusez-moi, si il y a un certain nombre de redondances par rapport à tout ce qui a été dit déjà, mais tant pis, la pédagogie passe par l'art de la répétition. Le dispositif internat d'excellence s'inscrit dans un contexte somme toute particulier, avec cet accent qui est mis sur les parcours des élèves et l'aspect personnalisation. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue cette question aussi, de se dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'internat, ça a été dit juste avant, donc beaucoup mieux que moi sans doute, sur cette question de la prise en compte de l'individu, de la personnalisation, du suivi des élèves. Donc ça, je crois que c'est important de le replacer dans ce contexte avec un certain nombre d'autres dispositifs qui ne sont pas liés directement à l'internat. Alors, des choix académiques. Je reviens un petit peu sur l'Académie de Lyon. Alors, la carte des places d'internat d'excellence concerne, alors je dis pas exclusivement, parce que sinon je sens quelqu'un qui va réagir, mais presque exclusivement les lycées, puisque nous avons une académie où... les internats de collège, ben, nous n'avons pas d'internat de collège, si ce n'est sur la Loire. Hein. Donc ça concerne exclusivement les internats avec un choix, alors un choix politique qui était dès le départ, ou presque, de faire en sorte que tous les établissements, offrant un internat soit impliqué, et je souligne le mot, soit impliqué dans ce dispositif d'internat d'excellence. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec ce qui a été dit, ça me paraît une démarche intéressante en se disant qu'après tout, même si la réponse, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin, en matière d'internat d'excellence par tous les établissements concernés est très différente, on est bien sur cette volonté académique de dire que derrière internat d'excellence se cache ou émerge plutôt la question fondamentale de la question quid du projet éducatif de l'internat tout court. Donc il me semble que là, on était déjà dans cette dynamique en se disant il faut, de gré ou de force, on va dire, excusez-moi, hein, je grossis les traits, impliquer tous les acteurs potentiels de l'académie. Alors, la deuxième chose, la question de la structuration. On a parlé ce matin du recrutement des élèves. C'est vrai qu'au niveau de l'académie, on a mis en place un dispositif, on va dire, académique de montage de dossiers, recrutement, etc. Mais qui a été aussi, et l'équipe de Bérard en parlera sans doute, complété par tout un tas de niveaux de recrutement d'autres élèves, notamment à travers le jeu de l'affectation. Et ça, c'est sans doute vrai, surtout vrai pour... Alors, c'est moins vrai pour les collèges, j'ai entendu ce matin, mais c'est surtout vrai pour les lycées, et notamment les lycées professionnels. Et puis, le dernier point, c'est la politique d'investissement, avec un travail qui s'est fait, je crois que la région sera présente demain, me semble-t-il, dans le programme, qui s'est fait avec la région Rhône-Alpes, avec laquelle nous avons... beaucoup et bien travaillé sur le montage du schéma de développement des internats et qui aujourd'hui permet d'envisager de faire avancer un certain nombre de dossiers, notamment en termes d'investissement. Alors, rapidement, alors comment on appelle ça dans le monde de la recherche, on parle de biais ou d'obstacles. Hein. Alors, je crois qu'il faut revenir sur certaines choses. Excusez-moi, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important qu'on puisse échanger là-dessus. C'est sans doute la question du manque de lisibilité au niveau des chefs d'établissement et de leurs équipes, globalement, qui ont eu beaucoup de difficultés à dépasser la simple labellisation, en se disant « je suis internat d'excellence » ou « j'ai des places labellisées ». Qu'est-ce que ça veut dire ? pour justement leur permettre, et ce, au-delà de cette, on va dire, cette image, cette photo, te dire au-delà de ça, comment je peux m'emparer de cette question essentielle du projet éducatif de l'internat. La deuxième chose, c'est la difficulté pour mobiliser une communauté éducative, parce que peut-être pas suffisamment préparée. On a parlé ce matin d'informer. Je crois que ça va plus loin que l'information, autour de la question de la gestion de l'internat. Ça reste encore très fort de dire que l'internat, ça repose sur les CPE et la vie scolaire. Point. Et c'est difficile de mobiliser d'autres acteurs, même si ça on avance progressivement, même si il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, des craintes qui ont été évoquées ce matin, mais notamment du côté des réseaux de l'éducation prioritaire, en se disant « Oulala, mais là, on va nous prendre nos meilleurs élèves ». Bon, je crois, je partage l'analyse qui a été faite, c'est pas aussi massif et c'est sans doute pas aussi fort que d'un point de vue objectif, même si au niveau du ressenti, ça reste très fort. Et notamment, pas au niveau des collèges de l'éducation prioritaire, mais au niveau des lycées qui sont implantés sur les territoires relevant traditionnellement de l'éducation prioritaire. Alors ensuite, le sens du partenariat, je dis bien du partenariat éducation nationale accès. Alors, avec cette question qui est sans cesse posée sur le profil des élèves concernés. Alors, moi, quand je suis arrivé et que j'ai pris le dossier, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi-même, à rentrer dans la question du profilage de ces élèves. Et avec ce biais, et je continue à le dire, de dire que internat d'excellence s'adresse à des élèves des quartiers politiques de la ville. Point. Et ça, ça a été, alors au départ, sans doute une façon de gérer les choses pour répondre le plus vite possible, mais qui ensuite nous a beaucoup ennuyé dans la réflexion autour de qu'est-ce qu'il y a derrière internat d'excellence et quels sont les élèves que l'on vise avec la définition d'un profil clair, autant faire ce peu, hein, pour essayer de travailler avec les établissements, avec les collectivités territoriales. Je me souviens la première année, 2010-2011, la conseillère technique, monsieur le recteur, assistante sociale, on a rencontré un certain nombre de partenaires, conseil général de l'Ain, de la Loire, etc., pour évoquer les questions financières dont parlait mon collègue de Grenoble tout à l'heure, de prise en compte des élèves issus de secteurs ruraux, par exemple. Et là, tout le monde m'a regardé, l'air de dire, mais il a rien compris. C'est-à-dire que c'est clair, les élèves relevant de ce dispositif, ben, c'est des élèves accès, point. Et là, ça a été très très difficile, et c'est toujours très difficile. Un autre point, alors des sources de confusion, ça a été évoqué ce matin, et c'est sans doute vrai dans l'Académie de Lyon, entre places labellisées, dans l'Académie de Lyon, on a parlé aussi d'internat revitalisé. Hein, Béjou en faisait partie, Bérard aussi, hein, et internat de plein exercice. Quelle est la différence? Est-ce que c'est la même chose, pas la même chose, etc., etc. Et puis enfin, des lectures très contradictoires par rapport aux attentes des uns et des autres, les parents, avec des stratégies très variables. Je ne me tournerai pas vers l'internat d'excellence du parc, hein, mais on sait bien que dans l'examen des dossiers, on a dû être très vigilant par rapport à des stratégies. Bon, j'arrête. Alors, les perspectives, et je m'arrêterai là. Moi, je crois que la question qui est aujourd'hui, qui est posée, qui est centrale et qui a déjà été formulée, c'est l'internat peut-il être un nouveau mode de scolarisation? Et ce, à quelles conditions? Alors, moi, il me semble que par rapport à ça, et c'est pas la première fois que je le dis, mais vous savez, on n'est pas toujours très entendu, c'est le sens et le développement d'un réel projet éducatif. Je crois que l'internat d'excellence a peut-être permis de recentrer les questions sur se dire finalement qu'est-ce qu'on fait à l'internat. Et je reviendrai pas là-dessus en se disant que finalement, au-delà de l'hébergement, il y a sans doute d'autres choses qui permettent à un élève de mieux vivre sa scolarisation et surtout de mieux y réussir. Alors, l'articulation entre l'individuel et le collectif. Je me souviens toujours d'un chef d'établissement qui me disait « Ah oui, mais alors, on a 15 places internes d'excellence ». Donc ce que vous voulez, c'est qu'on mette les 15 d'un côté et puis les autres, parce que il y a d'autres internes. Hein. On avait plus de 150 internes. Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que la grosse question, c'est de se dire, collectivement, il y a bien un projet d'internat qui concerne tous les internes, donc avec l'ouverture culturelle, etc., etc. Mais parmi ces élèves, parmi ces internes, il y a sans doute un certain nombre d'internes, d'élèves, pardon, qui nécessitent ou qui acceptent, hein, il y a les deux, je crois, une espèce de suivi, d'accompagnement beaucoup plus fort et qui leur permettent d'avancer par rapport à ça. Et on verra à travers l'exemple de Bérard, peut-être quelque chose d'intéressant par rapport à cette articulation entre le collectif et l'individuel. Il me semble aussi qu'aujourd'hui, là où on en est, il y a sans doute une intégration beaucoup plus forte à souhaiter sur ces questions d'internat, de fonctionnement d'internat, dans le cadre du dialogue de gestion entre établissements et autorités académiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça fait partie de quelque chose. Il y a une dotation internat qui est prévue, mais sans doute que dans le cadre de ce dialogue de gestion, il y a nécessité que les chefs d'établissement posent de façon beaucoup plus claire la question de l'internat, de la qualité de l'internat et des objectifs de l'internat dans l'établissement dont ils ont la charge. La question de l'information, on l'a évoqué ce matin, mais moi, me semble-t-il, ça va beaucoup plus loin en termes d'implication et de formation des acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est pas uniquement les acteurs CPE, vie scolaire, même s'ils en ont besoin, mais c'est aussi les professeurs hein, dans l'établissement, en quoi cette question de l'internat les concerne et en quoi ils ont tout à tirer profit de cette réflexion. Et puis, j'arrêterai par rapport à la question de l'évaluation des effets. Je crois qu'à un moment donné, au sein même de l'établissement, on a à se poser la question de qu'est-ce que ça a produit et en quoi les élèves qui ont fait l'objet d'une attention plus particulière ont progressé ou pas. Et si le pas, ça ne remet pas tout en question, mais ça permet de s'interroger sur ces stratégies. Mais je m'arrête là et je vais laisser la parole à mes voisins. J'espère que je n'ai pas été trop rapide, trop court pour essayer d'illustrer un petit peu plus notre réflexion sur ces internats. Voilà.
Bien, merci. Bonjour à tous. Donc on va faire une intervention à trois voix. Hein. On s'est réparti le travail. On va essayer d'être clair et le plus concis possible dans le temps qui nous est imparti. Alors pour ma part, je voudrais juste développer brièvement trois points. D'abord, le contexte local dans lequel s'inscrit l'internat du lycée Bérard. Ensuite, j'aimerais dire en quelques mots comment on est entré dans le dispositif internat d'excellence. Et puis, je voudrais dire aussi quelques mots sur le recrutement, parce que là, on a un recrutement qui est peut-être un petit peu atypique. Hein. Alors, l'internat du lycée Bérard, d'abord, le lycée Bérard, c'est 510 lycéens professionnels. Deux tiers de nos élèves sont en section industrielle, un tiers des élèves se trouvent en section tertiaire. Ça nous assure donc une mixité qu'on va retrouver évidemment dans l'internat, et je dois dire que c'est une mixité à laquelle on tient beaucoup. À 800 mètres du lycée à vol d'oiseau, il y a un lycée général et technologique, très important, et ce lycée général et technologique n'a pas d'internat. Donc depuis très longtemps, quand des élèves entrent au lycée général et technologique et ont vraiment besoin d'avoir l'internat, eh bien ils sont accueillis au lycée Bérard. Donc on a un public qui mixe à la fois le lycée professionnel et le lycée général et technologique. Juste une statistique, actuellement sur les 123 élèves que l'on a à l'internat de Bérard, on en a 20 ou 21 qui sont issus du lycée général et technologique. Voilà, ça c'était donc pour situer un petit peu le cadre local. Au niveau historique, on est assez récent dans le dispositif, puisque nous on est entré dans ce dispositif en mars 2010, puisque le rectorat donc à cette époque a demandé ce qu'on inscrive, enfin ce que l'internat du lycée Bérard s'inscrive, disons, dans le dispositif internat revitalisé. L'analyse qui était faite à cette époque, c'était simplement de reprendre le projet éducatif et pédagogique et de le centrer sur l'accompagnement du travail personnel et en même temps sur le développement des projets culturels qui pouvaient déjà exister dans l'établissement. Je dois dire que la démarche s'est mise en quelque sorte en route assez facilement, puisque depuis novembre 2008, on était en fait engagé avec la région Rhône-Alpes déjà dans un projet qui s'appelait « Vie à l'internat », puisqu'à cette époque, la région Rhône-Alpes avait proposé aux lycées disposant d'un internat de bâtir un projet, de le leur soumettre, et si le projet était accepté, on pouvait donc travailler avec eux sur une amélioration des conditions de vie à l'internat. Et donc on avait monté un projet à cette époque qui avait été retenu. Donc on travaillait déjà dans cette logique-là depuis novembre 2008. Alors, en quelque sorte, les deux démarches se sont quelque part rejointes, et puis elles ont donné lieu à un projet pédagogique éducatif qui a été formalisé et qui tourne évidemment autour de trois points: un suivi, un accompagnement individuel de la scolarité des élèves qui sont dans cet internat revitalisé puis d'excellence, un développement des activités socioculturelles, en particulier en s'appuyant sur le tissu associatif local ou plus que local, et puis développer la vie citoyenne à l'internat et en dehors de l'internat. C'est les trois grands axes, disons, du projet pédagogique et éducatif sur lesquels on travaille. Donc très concrètement, ça nous a donné en 2010-2011 18 jeunes qui étaient dans ce dispositif. En 2011-2012, 24. En 2012-2013, 34. Ou 33 exactement pour les dernières statistiques. Et puis donc depuis septembre de 2012, eh bien, l'internat est devenu internat de plein exercice. Pour ce qui est du recrutement, j'ai envie de dire qu'on a d'abord un recrutement classique dont parlait M. Gibert tout à l'heure, c'est-à-dire un recrutement par dossier, comme il se fait dans de nombreuses académies. Les dossiers sont instruits évidemment par les principaux de collège autour de cette idée que l'internat d'excellence s'adresse d'abord à des jeunes qui n'ont pas chez eux les conditions favorables pour réussir leur scolarité. Je dois dire que c'est un recrutement qui nous amène peu de jeunes, statistiquement 2 à 3 chaque année, pas plus. Donc on a un autre mode de fonctionnement qui est un petit peu lourd, mais qui nous amène un certain nombre d'élèves, à savoir on travaille à la fin du mois de juin avec les listings qui nous arrivent dans l'établissement et qui mentionnent tous les élèves qui nous sont affectés. Une fois qu'on a ces listings entre les mains, on passe par communication téléphonique avec toutes les familles des élèves qui vont entrer au lycée. À ce moment-là, dans la conversation qu'on a avec les familles, outre des informations qu'on leur donne sur les conditions d'inscription, sur les dates, on en profite pour leur demander s'ils demandent l'internat. Donc à l'issue de ces communications téléphoniques, on connaît de toute façon tous les élèves qui seront internes chez nous, sans parler d'internat d'excellence. Après, dans un temps très rapproché, on recontacte tous les chefs d'établissement d'origine, qui correspondent donc aux établissements dans lesquels se trouvaient ces futurs élèves qui arrivent chez nous. Et on pose la question aux principaux de collège en leur disant « Voilà, on a tel et tel élève qui arrive. Est-ce que il te semblerait judicieux qu'on fasse à cet élève et à sa famille une proposition de l'internat d'excellence ?» Bon, donc une discussion qui s'engage avec le chef d'établissement, son adjoint, les personnels de vie scolaire. Et donc on a des réponses à ce moment-là des chefs d'établissement en direct sur des cas précis. Ça nous permet à ce moment-là de dresser une liste des élèves pour lesquels on peut potentiellement faire la proposition de l'internat d'excellence à eux et à leurs parents. Et à ce moment-là, au moment où on entre sur les chaînes d'inscription, tout ça dans un temps très bref, on va travailler avec cette liste-là et avec ces élèves qui ont été repérés par les principaux de collège.
Voilà, donc au moment des chaînes d'inscription, les élèves repérés sont tous reçus individuellement avec leur famille pour un entretien. Entretien autour duquel on présente le projet d'internat. Et puis on regarde le parcours scolaire de l'élève, ses résultats, ses difficultés, sa motivation, éventuellement son projet professionnel pour mieux cerner le profil de l'élève. Et à la fin de cet entretien, on propose ou non la signature du contrat, puisque l'entrée dans le dispositif repose sur l'adhésion d'abord de l'élève et de sa famille et sur leur engagement par un contrat très, très simple qui leur est présenté à ce moment-là. Donc parallèlement, toutes les adresses des internes nouveaux sont passées au crible de Sigville. Vous connaissez certainement ce logiciel. Donc lorsque l'élève habite dans un quartier politique de la ville, l'aspect financier est expliqué au moment de la signature du contrat. Ça n'est pas le critère unique et ça n'est pas le critère prioritaire. La plupart des élèves qui appartiennent au dispositif ne relèvent pas de l'accès. Par contre, tous les élèves domiciliés dans les quartiers politiques de la ville sont intégrés dans le dispositif. Donc le groupe est fixé pour la rentrée. Même si au cours du premier trimestre, en fonction des échanges avec les professeurs et les résultats scolaires voyant le jour, on peut tout à fait intégrer un nouvel élève dans le dispositif. Et donc ce groupe est pris en charge par Cyril qui va vous expliquer son travail avec eux.
Merci. Oui, alors tout d'abord je vais vous présenter les spécificités du groupe IE. Donc derrière moi, vous voyez un diagramme qui reprend la répartition des effectifs par niveau scolaire. Donc en vert, pour l'intégralité du lycée professionnel Alexandre Béra, qui va de la première année de CAP à la deuxième année de BTS. En bleu, l'internat, qui compte donc 119 internes à ce jour, sur 37 formations différentes, avec une grande majorité de garçons. Et en rouge, donc le dispositif internat excellence, que je nommerai IE par la suite, qui est composé de 33 internes, issus de 22 formations. 13 ont le statut accès et 8 sont boursiers. Voilà, donc ce qui est intéressant à regarder sur ce diagramme, à mon sens, c'est que le groupe IE est à la fois représentatif de l'internat et du lycée en ce qui concerne la diversité des niveaux de formation. En ce qui concerne les secteurs d'activité, donc 13 secteurs d'activité sont représentés dans l'ensemble de l'internat. Donc d'activité professionnelle. Donc le secteur industriel et tertiaire, donc qui sont représentés par les élèves du lycée Alexandre Bérard, qui sont fortement majoritaires à l'internat, et les secteurs scientifiques et technologiques, qui sont représentés par les 22 élèves du lycée général de la Plaine de l'Ain, dont Monsieur Bouquet vous a expliqué leur entrée au sein de l'internat. En ce qui concerne le groupe IE, donc les 33 élèves en question, toutes les formations qui sont dispensées au lycée professionnel Alexandre Bérard sont représentées au sein du dispositif IE. Voilà. Donc ce dispositif est encadré au jour le jour par un coordonnateur, donc moi-même en l'occurrence, depuis 12 mois. Donc apparu en 2009 au lycée Alexandre Bérard, ce poste disposait à l'époque de peu de recul à l'échelle nationale et pouvait dépendre du contexte du lycée, à savoir son isolement géographique, son isolement culturel ou encore les enjeux internes propres à l'établissement scolaire. Donc au sein du lycée, le poste a été défini dans un esprit de liaison entre les services du lycée. En pratique, et comme on peut le voir sur le schéma derrière moi, l'action, donc le schéma qui est centré sur l'élève IE, les rôles sont multiples et surtout les rôles sont transverses. Donc entre l'encadrement pédagogique et l'encadrement éducatif en ce qui concerne le suivi de la scolarité, mais aussi avec les familles et les intervenants extérieurs pour monter les différents projets et activités socioculturelles. Tout ça supervisé par la direction d'établissement et l'intendance. Donc ce rôle, sans se substituer aux différentes équipes, et consiste à mieux comprendre et à mieux suivre les élèves sur les différents pans de sa scolarité et à interagir avec les familles. Ce rôle a été assez rapidement intégré par les élèves IE, puis par tous les internes qui sont dans le lycée. Donc au jour le jour, le travail s'effectue surtout avec la vie scolaire et le corps enseignant, qui semble identifier aujourd'hui le coordonnateur comme le référent d'un dispositif au même titre que la référente du dispositif Ulysse, par exemple, qui est en place au lycée. Je te laisse la parole.
Alors, ce qu'on souhaitait mettre un petit peu en avant sur ce bilan, puisque c'est vrai que pour nous, ça a été quand même très positif, de façon générale. La réalité de la vie à l'internat et sa perception par les élèves a été modifiée au cours des années, d'abord avec les projets de vie à l'internat et puis par le dispositif IE qui a aussi apporté les moyens, notamment humains, pour donner plus d'ampleur à ce projet. Et on retrouve... je crois qu'on s'identifie quand même très bien au portrait qui a été dressé tout à l'heure, et que d'un lieu simplement d'hébergement subi par les élèves la plupart du temps, les internes aujourd'hui véhiculent l'image d'un lieu ouvert, d'un lieu vivant, d'un lieu où ils peuvent faire des expériences et d'un lieu où ils peuvent travailler. Donc les sorties socioculturelles et sportives ont eu un rôle très important dans cette dynamisation de l'internat. Elles ont été très variées, notamment l'année dernière. Elles ont permis aux élèves de se retrouver sur des centres d'intérêt très différents. Elles ont fait cohabiter des élèves qui n'auraient pas noué de lien sans ça. Et puis petit à petit, les élèves ont eux-mêmes pris l'initiative de venir proposer des sorties, des activités, et ça c'était quand même aussi l'objectif du projet. Et ils se sont laissés ouvrir. Voilà, je dirais ça comme ça, avec des découvertes qui sont très différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Hein. Ils ont été emmenés au TNP. Un petit groupe est parti en librairie acheter des livres pour la bibliothèque de l'internat. Ils se sont retrouvés les trois quarts des internes un mercredi après-midi autour de jeux en bois, hein, alors que leur présence était complètement volontaire. Donc voilà, il y a vraiment une variété de relations tissées entre eux par ces activités. Et vraiment, ce qu'on a pu repérer, c'est une plus grande coopération entre eux, un esprit de coopération développé et une plus grande tolérance entre les différents groupes d'élèves. Aujourd'hui, il y a un groupe musique hebdomadaire qui se réunit avec des élèves voilà, qui ont des niveaux très différents, des goûts très différents. Certains s'essayent à amener leur instrument ou à chanter sans dénigrement, sans moquerie, sans vraiment dans un esprit très coopératif, et c'est déjà beaucoup. Ces élèves témoignent auprès de leurs camarades de l'externat des expériences vécues ensemble à l'internat, et ils se créent de la vie, je crois, de tous, vraiment un sentiment d'appartenance à l'internat, et on a voulu, nous on insiste quand même sur cette partie collective et pas juste une aide individuelle. Je crois qu'on réussit petit à petit à créer un sentiment d'appartenance qui aussi a des répercussions positives à l'externat. 20% des élèves du lycée sont internes. Donc c'est une grosse représentation dans les classes, cette confiance, je dirais, dans les adultes et puis en eux-mêmes, rejaillit aussi à l'externat. Les délégués de classe, par exemple, sont les internes sont surreprésentés parmi les délégués, et c'est une donnée assez intéressante. Ce qui est très repérable aussi, c'est le changement de la place du travail à l'internat. Ça a été de longues luttes parce que les élèves ne travaillaient pas. Et on avait beaucoup de mal à les mettre au travail. Donc on est passé d'études surveillées, certes obligatoires, mais très artificielles, où il était difficile de mettre les élèves au travail. Et maintenant, il y a un lieu, il y a une personne identifiée. Et voilà, le travail scolaire a pris sa place à l'internat. Ça n'est plus vu juste comme un temps contraint qui vient nuire au moment de détente ou d'entre-soi auquel les élèves aspirent. Mais vraiment, voilà, ça fait partie de la vie à l'internat. Qui a un temps de travail, et ça c'est vraiment nouveau. Donc ça aussi ça déteint positivement sur la vie des classes, ça modifie la dynamique des classes, d'autant plus que le nombre d'élèves internes est nombreux au sein d'une classe, et on a des sections pour lesquelles presque la moitié de la classe est interne. Et c'est d'autant plus vrai que, au départ, les élèves IE sont quand même potentiellement des élèves fragiles. Bon, je vais faire vite. Le regard des professeurs, du coup, a changé aussi sur ces élèves-là. Sur ce qui se passait à l'internat.
Oui, pour nous, c'était un des éléments, disons, très intéressants. Je citais une anecdote tout à l'heure à Madame Benayoun. On est parti quand même Le point de départ, ça a été un mois après, disons, cette appellation internat d'excellence, donc en octobre 2010. Moi, j'ai quand même des collègues qui sont venus me voir en délégation dans mon bureau, puis qui m'ont dit, monsieur le proviseur, dans cet internat d'excellence, pourquoi vous avez pris tous les plus mauvais ? Ça a été notre point de départ. Donc ça nous a montré d'abord qu'il y avait un fort besoin de communication pour expliquer ce qu'était l'internat et un fort besoin aussi de travail collectif au niveau de la structure lycée. Aujourd'hui, vous me direz, on est loin du compte, mais on a quand même fait des progrès, puisqu'aujourd'hui, je pense que l'internat est devenu un petit peu dans l'image que s'en font les enseignants comme une structure éducative à part entière qui permet, disons, aux élèves de mieux réussir leur scolarité. Et puis, on regarde l'internat aussi dans toutes ses composantes et la dimension culturelle de l'internat, qui était totalement, si vous voulez, absente du regard des professeurs auparavant, est entrée vraiment et vraiment prise en compte aujourd'hui. J'irai un petit peu plus loin. On avance petit à petit et aujourd'hui, on a même un professeur, vous me direz un seul, qui vient le soir entre 7h30 et 8h30 faire une heure de travail en français. Hein, on espère aller un petit peu plus loin. De même qu'on a un, voire deux professeurs d'EPS qui viennent le soir monter des activités sportives, nocturnes. Bon, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau regard qui est porté par l'ensemble de la communauté éducative. Et ça, c'est sans doute un des éléments auxquels on est le plus sensible.
Voilà, alors un petit mot aussi pour dire quelque chose de l'intégration de ce groupe d'élèves au sein de l'internat, puisque lors du lancement du dispositif, on s'était tout de suite interrogé sur la place de ces élèves et on avait la crainte d'une distinction, soit positive, soit négative, de ce groupe d'élèves vis-à-vis des élèves des internes de droit commun, comme le nomme le rapport d'inspection générale. Alors, on a gardé ce terme, il est intéressant parce que justement, je crois que le fait que la cohabitation se passe vraiment très sereinement, tranquillement, c'est qu'on a fait de ces élèves internat d'excellence des élèves de droit commun. Il n'y a pas de différence de traitement de ces élèves. Alors, on a été aidé par le fait que le public IE n'est pas différent socialement du public d'internes en général. Nous appliquons les exigences de la même façon aux uns et aux autres. Les exigences de vie en collectivité, les exigences de relations aussi. Et puis, il n'y a pas de chambre, pas de dortoir qui soit spécifique aux élèves internes d'excellence. Les activités et les sorties sont proposées systématiquement à tous, et d'ailleurs de très nombreux élèves y ont participé, IE ou non. Donc au quotidien, même dans l'internat, c'est la réflexion qu'on se faisait l'autre jour, le vocabulaire IE, ou encore moins axé, ça n'existe pas. On ne parle pas des élèves en termes d'IE ou de non-IE. Il faut dire que voilà, il y a déjà beaucoup de diversité au sein de l'internat, beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de mixité, et que finalement cette question du statut IE est venue se rajouter à une habitude déjà de gérer des situations d'élèves très très diverses et très mixte. Voilà, donc la seule distinction visible des élèves IE, c'est pour tout le monde ceux qui vont à l'étude. Voilà. Et on n'a jamais constaté la moindre tension, la moindre remarque sur une stigmatisation des élèves internat d'excellence, ni à l'intérieur du groupe IE, une distinction entre évidemment les IE axés et les IE non axés, alors que les élèves connaissent la règle du jeu. C'est pas, le dispositif n'est pas non plus tabou. Voilà, donc ça, je crois qu'on en est satisfait. Et que les élèves comprennent que finalement le dispositif a permis la prise en charge pédagogique d'une minorité d'élèves à besoins spécifiques, mais a profité à l'encadrement, à l'amélioration de la qualité de l'encadrement éducatif de tous. Et c'était notre objectif.
Allez-y.
Moi, j'avais juste un mot à dire sur, disons, le retour qu'on peut avoir des élèves. Il nous intéresse évidemment énormément, hein, ce que pensent les élèves qui sont dans le dispositif internat d'excellence de l'expérimentation. Je dois dire que l'année dernière, quand on a fait, parce qu'on fait le bilan de temps à autre avec eux, on va dire que 95%, voire plus, des élèves qui étaient dans ce dispositif internat d'excellence se disaient satisfaits. Et ils ajoutaient tous quelque chose qui, pour nous, est assez significatif. Ils nous disaient, si on n'y avait pas été obligé, entendez la signature du petit contrat du début d'année, on n'y serait pas venu. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent, on n'aurait pas eu envie, on aurait aimé faire autre chose, ou ça ne nous intéressait pas. Je veux dire que, quelque part, on rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on parle de jeunes qui n'ont pas chez eux les conditions favorables pour réussir leur scolarité, on est, nous, face à des jeunes qui, effectivement, le jour où l'encadrement du professeur pendant ses cours disparaît, où les élèves après peuvent être retrouver disons une vie un petit peu différente, de même ils n'iront pas vers ce travail s'ils ne sont pas encadrés, s'ils ne sont pas suivis, s'ils ne sont pas encouragés. Ça, c'était l'avis de la quasi-totalité.
Oui, et je vais conclure assez rapidement. Donc, bien qu'il semble difficile d'évaluer l'efficacité du dispositif au lycée, on peut tout de même avancer quelques résultats évocateurs. Donc ce constat est basé sur les 12 mois de présence à ce poste. Sur le premier axe, donc, qui est le suivi de la scolarité des élèves, donc des éléments peuvent être avancés. Il y a eu une évolution notable depuis janvier 2012, par exemple sur le fait d'arriver à l'heure, simplement le soir en études à 19h30. Il faut imaginer qu'en janvier 2012, une grande partie du travail... Donc mon travail et de ma collègue Madame Besson, qui n'est plus là aujourd'hui, à ce poste, était d'être simplement dans les chambres pour les motiver et réussir à ce que les élèves tiennent un engagement d'être à l'heure en salle d'études avec du travail. Donc là, il y a vraiment une réelle évolution. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Voilà. Et le fait aussi d'avoir du travail le soir... bien que sur leur carnet de texte, il n'y ait pas forcément du travail marqué, mais simplement prendre des habitudes de révision. Une autre évolution marquante, depuis cette rentrée, il y a 12 élèves qui sont satellites à l'IE, qui n'hésitent plus à participer aux cours de soutien le soir. Donc ce qui n'était pas le cas en début d'année. Donc ce volontarisme semble être un indicateur intéressant de l'ancrage du dispositif IE à l'internat. En ce qui concerne la participation du corps enseignant, en 12 mois, donc le nombre de professeurs qui participent au dispositif a fortement augmenté. Donc aujourd'hui, c'est un partenariat actif, ce qui permet d'être réactif dans le suivi et d'anticiper le mieux possible les échéances avec les élèves, c'est-à-dire les devoirs, les contrôles à venir ou les demandes spécifiques des professeurs. C'est cette réactivité qui s'est avérée être un atout majeur pour prévenir les situations difficiles qui n'auraient été détectées qu'une fois par trimestre lors d'un conseil de classe. Donc dans ce cadre, à mon sens, le rôle du coordonnateur prend tout son sens. Par sa grande visibilité, sans se substituer aux familles, il est une personne ressource à même de comprendre tous les blocages du quotidien pour les internes et un soutien, y compris moral, présent tous les soirs de la semaine. Sur le deuxième axe, je vais être très très rapide. Donc on va vous distribuer durant ces deux jours le rapport d'activité. Donc, qui vous précisera plus en détail tout cela. Donc, le deuxième axe, qui est les activités socioculturelles, et sportives. Donc, pour être bref, de janvier 2012 à juin 2012, donc ce sont 62 élèves qui ont participé à au moins une des 16 sorties socioculturelles et sportives qui ont été organisées. Donc, ça représente plus de la moitié des élèves internes au lycée et près de 3/4 des IE. Sur la journée d'intégration, je n'y reviendrai pas. Ça a été une première et je pense une belle réussite. Cette forte participation a d'ailleurs permis de relancer la bonne dynamique qui a été acquise en fin d'année dernière et de déclencher de nombreux échanges qui n'auraient certainement pas eu lieu. Enfin, sur le troisième axe, et je finirai là-dessus, être acteur de son internat, donc ciblé sur la vie citoyenne. En 2013, donc pour des raisons à la fois humaines et budgétaires, moins de projets ont été portés par l'équipe de l'internat. Ceci a provoqué une forte demande des internes dans la création de nouvelles activités. Donc on a pu passer d'une offre d'activités clé en main, entre guillemets, donc ce qu'on faisait en fin d'année dernière, à une implication obligatoire des élèves internes dans la co-organisation des projets.